Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnel et professionnel, mais pas que, j'ai aussi le plaisir d'être à l'origine de ce podcast et mon travail à cette occasion est de rencontrer pour vous des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à raconter, mais aussi de partager avec vous des outils de développement personnel et professionnel. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Ça peut permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas aussi à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et enfin, vous pouvez aussi me faire vos feedbacks. Vous êtes déjà très nombreux à le faire et je vous en remercie. C'est très précieux pour moi pour me permettre de faire avancer tout ce travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler communication et relations humaines. Et pour cela, j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer la talentueuse Aude Milesi. Aude, elle est aujourd'hui formatrice et conférencière. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a encore quelques temps, Aude était une grande timide? Timide au point, par exemple, d'avoir du mal à demander son chemin dans la rue ou encore d'aller acheter du pain à la boulangerie. Je sais, c'est un peu difficile à croire, et pourtant, c'est bien vrai. Et je vous laisse imaginer tout le travail qu'elle a fait sur elle-même pour en arriver là. C'est ce qu'elle nous explique dans cette interview, et je la remercie une fois de plus de s'être livrée à ce point avec moi. Et comme d'habitude, je vous retrouve en solo juste après cette interview pour continuer à échanger sur ce sujet avec vous. Bonjour Aude.
Bonjour Catherine.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. J'ai hâte de creuser un petit peu nos échanges. Et avant de commencer, je voudrais te demander, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, voilà.
Ok, alors déjà merci de m'avoir invitée parce que j'ai été touchée par ta demande. Alors, qui je suis, donc Aude Milesi, d'où je viens, c'est une question, j'ai envie de te dire, qui me fait toujours sourire, clairement, puisque d'où je viens de Troyes, je suis née à Troyes.
D'accord.
Mais après, j'ai beaucoup été entre la Guyane et la Champagne-Ardenne, on va dire. Ça fait 20 ans que je suis revenue sur Reims, et entre deux dans l'Aisne. Et vraiment 8-9 ans que je suis revenue sur Reims pleinement pour m'établir professionnellement.
La Guyane, parce que tes parents sont d'origine...
Mon papa est martiniquais, mais sauf qu'il a grandi en Guyane, et j'ai grandi du coup en partie en Guyane, et j'ai ma famille une partie de ma famille qui est encore là-bas.
D'accord,
voilà.
Ok.
Donc, maintenant établie à Reims, et donc tu m'as demandé ce que je fais. Donc aujourd'hui, je suis travailleuse indépendante, je suis conférencière, je suis formatrice, et je vais dire coach, et en même temps, j'aime pas trop dire coach parce que j'ai plein d'autres casquettes à mon arc. Donc je peux faire du coaching comme je peux utiliser plein d'autres outils pour accompagner des personnes à être dans le mieux-être et dans la performance.
D'accord. Conférencière, tu peux nous creuser un petit peu ce sujet-là?
Oui, alors conférencière, vraiment en mode conférence d'inspiration, prise de conscience, et puis peu de temps, conférence spectacle, avec l'idée vraiment d'apporter des prises de conscience aux personnes. Ma thématique phare, c'est sur la communication au sens large, sur la motivation aussi, où j'apporte des clés d'inspiration aux personnes et des outils aussi pour leur permettre de comprendre parfois qu'elles vivent des situations où il y a quand même des solutions et que rien n'est perdu. Voilà, moi l'idée c'est de rester dans l'optimisme grâce à ces conférences.
D'accord. Tu parles du sujet de la motivation, c'est-à-dire par exemple comprendre son fonctionnement par rapport à sa motivation, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, quelles sont les clés de ça?
C'est ça, c'est surtout aussi voir comment, qu'est-ce qui nous amène à rester motivés, à tenir dans le temps.
D'accord.
Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont verbaliser une certaine motivation, mais qui, au-delà des mots, ne vont pas se mettre en action. Pourquoi? Donc justement, les aider à comprendre quelles seraient les actions à mettre en place et aussi quelles sont les clés qui vont amener à la motivation et surtout aller jusqu'au bout de l'objectif.
D'accord. Oui, on entend souvent des gens nous dire « il faut que je fasse ça ».
Voilà.
Et puis ça tient quelques temps et puis le soufflet retombe. Et c'est ça que tu, que tu présentes, tu expliques en tout cas dans tes conférences, et comment faire en sorte que ça perdure.
Voilà, c'est comment ça peut perdurer, parce que moi je suis quelqu'un d'hyper déterminé, d'hyper motivé, et quand je me fixe un objectif, c'est j'y vais, je vais jusqu'au bout et je ne lâche rien.
D'accord.
Bien évidemment, je rajuste si c'est pas écologique pour moi, si je me sens pas bien, etc. Je vais pas me mettre en difficulté, mais en tout cas, je dirais que je tends au plus près de ce que je me suis fixé et je tiens.
D'accord. Donc, si on résume aujourd'hui ton activité, donc tu es formatrice, conférencière et coach, bon, même si effectivement tu n'aimes pas ce terme-là, mais en tout cas, tu accompagnes au bien-être,
tout à fait.
C'est ça ?
Et à la performance.
Mmh. Comment tu as fait pour en arriver là ? C'est quoi ton parcours, que ce soit formation ou professionnel ?
Alors, parcours très évolutif. Mon premier métier... Je me suis formée au métier d'infirmière.
D'accord.
Métier que j'ai...
Infirmière de base.
Voilà, infirmière. J'ai très peu exercé au final, puisque je savais en rentrant dans ce métier que je n'y resterais pas. Non pas parce qu'il ne me plaisait pas, mais parce que justement l'envie d'apporter plus aux gens déjà à l'époque, de savoir comment motiver des équipes était déjà là, de les accompagner à toujours mieux. Mm-hmm. Et apporter ça aux équipes, mais aussi apporter ça aux patients. J'ai exercé pendant 5 ans et très rapidement j'ai passé mon diplôme de cadre de santé, donc filière infirmière, et en parallèle j'ai passé un master de droit, économie, gestion.
D'accord.
Mais entre deux, j'ai aussi passé un diplôme de sophrologue relaxologue, donc pas sophrologue pur mais aussi relaxation, donc avec plein d'outils de relaxation.
D'accord.
Avec cette idée justement déjà d'apporter un mieux-être aux patients que j'accompagnais, parce que pour moi le bien-être c'est, je dirais que c'est mon guide, mm-hmm. c'est mon fil conducteur mm-hmm. depuis que je suis toute petite.
Mm-hmm. Oui, déjà dans le métier d'infirmière de toute façon. Mm-hmm.
Voilà, mais ça je crois que c'est depuis que j'ai l'âge de 6 ans que j'ai pris conscience que le bien-être pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Et
d'accord.
En me formant à la sophrologie, c'était me dire, j'avais une insatisfaction de ce qu'on pouvait proposer aux patients, et je me disais si je peux leur apporter plus, je vais le faire. Donc je me suis formée à titre personnel. Un week-end je travaillais, un week-end je me formais. Donc ça a été.
Donc c'était en parallèle de.
C'était en parallèle, c'est quelque chose que j'ai fait.
De ta profession à ce moment-là.
Voilà, tout à fait, j'ai fait pour moi. Et j'ai même fait une spécialisation sur la maternité et l'enfance, puisque bon, c'était déjà il y a une quinzaine d'années, parce que ben, en plus c'était un moment où la maternité me trottait dans la tête, etc. Donc ça m'a servi aussi en tant que maman. Donc voilà, et j'ai exercé aussi déjà en tant qu'indépendante à l'époque où je travaillais en cabinet individuel et aussi pour des associations culturelles et des associations sportives.
D'accord.
Voilà, donc sophrologue, relaxologue, cadre de santé. Donc avec mon master, bah, tout de suite en fait, j'ai pas vraiment non plus exercé en tant que cadre de santé. J'ai tout de suite été directrice d'établissement sanitaire et médico-social.
D'accord.
Dans le secteur du handicap, hein, tout d'abord dans la déficience psychique, hein, et ensuite dans la handicap intellectuel, déficience psychique, autisme et polyhandicap.
D'accord.
Aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.
D'accord.
Voilà, donc j'étais directrice multisite, je gérais 9 établissements et services sur Reims, et ce qui m'a amené à avoir envie du coup de créer mon entreprise, c'était de me dire là encore j'ai envie d'apporter plus. J'ai toujours un objectif, je suis quelqu'un de pas perfectionniste, pas du tout, mon soi parfaite est partie, mais en tout cas l'envie de se dire je peux apporter plus. Et je me suis rendu compte sans le savoir que ma façon de manager mes équipes, surtout sur mon dernier poste, je les coachais.
D'accord.
Voilà, j'étais plus sur aller chercher les ressources des personnes, les talents pour les valoriser, trouver quelles étaient les bonnes compétences sur lesquelles je pouvais m'appuyer sur certains projets, etc. Et quand à un moment donné j'étais déconnectée de mes valeurs vis-à-vis de mon poste, j'ai fait le choix de partir. Et là je me suis formée au coaching de manière généraliste sur Paris. Mm-hmm. Où là j'étais sur une formation qui était très, très universitaire, très théorique. Et il m'a manqué quelque chose d'humain. Mm-hmm. Donc j'ai fait le choix de tout de suite continuer sur deux autres formations. Mm-hmm. D'une part, une formation de coach d'équipe, hein, parce
d'accord.
que toujours cette notion d'équipe, de collectif qui me porte beaucoup.
Oui.
Et une formation de coach formateur spécialisé en neurosciences.
D'accord.
Ce qui me donnait l'aspect pédagogique, formation, qui est aussi un côté qui me porte, et le côté neurosciences qui pouvait me reconnecter aussi à ma profession première d'infirmière, mm-hmm. où la compréhension du corps humain, du fonctionnement du cerveau est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement, ouais, qui m'intéresse beaucoup. Et puis, enfin, ma formation de conférencière que j'ai faite cette année, suite à une révélation. Mon corps qui s'est mis, voilà, j'ai vraiment eu comme si tout mon parcours de vie s'est aligné à un moment donné où j'ai entendu quelqu'un m'expliquer ce qu'était le métier de conférencier. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
En fait.
Vraiment,
d'accord.
Ça, c'est tout s'est réveillé en moi. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de beaucoup plus faire de conférences et de formations, mais moins d'accompagnement.
Mmh. Malgré tout, tout ce parcours qui est du coup extrêmement riche et varié, même s'il y a un fil conducteur qui est le bien-être, hein, tu l'as dit.
Le bien-être, l'humain.
C'est certainement aussi tout ça qui t'a conduit à faire ça et qui fait qu'aujourd'hui, tu le fais certainement de cette façon-là.
Oui, moi, c'est vraiment l'intérêt porté à l'autre qui me fascine, quoi. L'humain, qui est vraiment... j'ai une fascination pour le développement de l'être humain. Je me rappelle au début que j'ai rencontré mon mari, qu'on se promenait, c'était assez drôle, celui-là adore la nature. Mm-hmm. Donc quand on se promenait dans un parc, il me disait « Ah, t'as vu l'arbre, t'as vu la fleur, etc. Mm-hmm. » Et moi, je lui disais « T'as vu le couple, t'as vu cette personne.
»
Parce que j'ai aussi appris à faire de la lecture de corps, etc., à décrypter le non-verbal.
La communication non-verbale.
Voilà, et je l'utilisais déjà beaucoup à l'époque, et voilà, quoi.
D'accord, ok. Bien, mais écoute, c'est un parcours vraiment intéressant et moi je crois savoir que quand tu étais jeune, avant tout ça, tu étais une grande timide. Tu m'as déjà abordé ce sujet-là en off avec moi et c'est ça qui m'intéresserait notamment de creuser aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer comment ça se traduisait cette timidité chez toi ?
Alors, ce qui est très drôle, tu vois, c'est toi qui m'en as fait prendre conscience. Je le savais, mais si tu veux, moi, j'atténuais en disant je suis introvertie, je suis réservée. Sauf qu'en réalité, je posais pas de questions en classe, non pas parce que je me sentais bête, parce que j'avais très, très bonnes notes, que j'étais plutôt première de classe, mais parce que j'avais hyper peur. J'avais hyper peur, j'avais une posture physique, jusqu'au collège on m'a appelée la tortue quand même, hein, parce
d'accord.
que j'avais la tête vraiment rentrée dans les épaules. Donc déjà toutes mes années, je crois que les pires années ça a été les années collège où je me suis encore plus renfermée, où je me suis toujours cachée derrière un groupe d'amis.
D'accord.
Donc j'arrivais à me faire des amis en individuel, tout se passait très bien, dans une relation duel. Mais par contre dès que j'étais face à un groupe... je savais pas comment m'exprimer. Je mettais toujours 3 heures, j'avais toujours des choses à dire, mais elles restaient à l'intérieur.
D'accord.
C'était pas possible.
Que ce soit un groupe de personnes que tu connaissais ou un groupe de personnes que tu ne connaissais pas, peu importe.
Alors, c'était plus facile avec les gens que je connaissais, mais je restais quand même en réserve, malgré tout. Alors, dans mon cercle familial, ça allait. Mm-hmm. Après, je pense qu'aussi le fait d'être une dernière dans une fratrie de 3 a joué aussi sur le fait que... Je sais que moi, j'y suis attentive avec ma dernière, c'est qu'on nous laisse moins la parole. Donc, du coup, au fil du temps, déjà quand on a une personnalité réservée, on prend de moins en moins d'espace et je me suis de plus en plus effacée. Et je dirais que ce qui me sauvait quelque part, c'est que je faisais beaucoup de sport à l'époque.
D'accord.
Donc c'était ma façon
d'extérioriser
tout ce qui était à l'intérieur de moi.
Comme
je faisais de la gymnastique sur agrès, hein, que j'ai fait en compétition à haut niveau. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir... tout ça, et puis j'avais une maman et un frère qui faisaient du théâtre, et donc j'allais tout le temps les regarder, et en fait j'étais toujours en off, j'étais toujours en remplacement, j'étais toujours derrière pour remplacer au pied levé dès qu'il y a quelqu'un, je connaissais les textes de tout le monde, etc. Mais je prenais pas de rôle pendant des années, je pouvais pas, quoi. C'était plus facile pour moi d'être cachée et d'être souffleuse, et éventuellement aussi...
D'accord. Et tu disais à l'instant, j'avais très peur. Dans ce genre de situation, on a peur de quoi ? Quand on n'arrive pas à prendre la parole,
on a peur
de quoi ?
Peur,
tu te souviens ?
Ouais, j'avais peur qu'on se moque de moi, de dire une bêtise, de paraître ridicule. J'avais toujours l'impression que les autres étaient plus intelligents, plus brillants que moi. Et du coup, je me disais au mieux de taire, quoi. Même si j'avais mon opinion, mais je la gardais parce que... Peur du regard des autres qui était
vraiment... c'est le regard des autres en fait, le jugement qui...
Ouais, peur du jugement qui était vraiment...
Qui crée une peur.
Très très fort. Hein.
Et qui est vraiment du coup une peur
qui te tétanisait,
qui te paralysait. Parce que parfois on a peur de quelque chose mais on passe quand même à l'action. Mais là c'était vraiment une peur...
C'était une peur terrible. Hein. Même des fois, je me rappelle, mon grand-père me disait arrête de faire l'idiote. Quand il me disait va acheter une baguette, non, j'y vais pas.
D'accord.
Il me poussait à y aller mais c'était...
C'était un effort
Ah ouais, c'était, j'étais même du style à plutôt poser les pièces sur le comptoir de la vendeuse, à lui montrer avec mon doigt ce que je voulais, plutôt que de sortir un mot, parce que des fois que j'ai éventuellement mal prononcé
le mot baguette.
Pain au chocolat ou flan ou je ne sais quoi, parce que mon grand-père était gourmand. C'est, voilà, j'en étais quand même là. Et ce qui est très drôle, c'est que mes amis ne s'en rendaient pas forcément compte, puisqu'en relation duel, ça se passait bien, j'étais D'accord. très à l'aise, etc. Mais c'est vrai que des fois dans les groupes, ils ne comprenaient pas, donc je me prenais souvent des coups de coude, genre, ah, vas-y, dis ce que t'as à dire, tu m'as dit
tu
un truc
dit
tout à
l'heure, c'était intéressant.
Et puis bah non.
Ça faisait partie des questions que je voulais te poser, justement, comment ton entourage, que ce soit tes amis ou ta famille, réagissait par rapport à ça?
Bah, ma famille se rendait pas forcément compte, j'ai des parents qui ont des fortes personnalités l'un comme l'autre, j'ai un frère qui a aussi une forte personnalité, qui était toujours délégué de classe, etc. Une sœur qui était assez à l'aise aussi. Donc au final, le fait que je prenne pas de place, vu que je leur laissais la leur, ils s'en rendaient même pas compte. Hein.
D'accord.
Donc c'était plus, bon bah tu devrais faire des efforts. Voilà, moi c'était souvent, tu fais pas assez d'efforts. En classe, on dit que tu participes pas, arrête d'être fainéante. C'était mis toujours sur le compte quelque part de l'incompétence.
Mm-hmm.
Donc bah moi je pendant longtemps je me suis crue incompétente aussi de ce fait.
Donc tu l'as mal vécu par rapport à ça?
Bah, je l'ai assez mal vécu parce que souvent on me disait que j'étais feignante alors que je travaillais, que j'apprenais mes leçons, mais quand t'as un blocage, t'as un blocage quoi. Donc alors réciter une poésie vu que c'était du par cœur, t'es hyper centrée sur ta poésie, t'arrives à la sortir. Après ma mère forcément qui faisait du théâtre, mais il faut mettre le ton, etc.
Ouais.
À la maison, j'arrivais devant l'instituteur, c'était impossible.
D'accord.
Donc, à chaque fois, on me disait, c'est parce que tu fais pas d'efforts. Donc, et t'as beau essayer de faire des efforts, quand ça veut pas sortir, ça sort pas, quoi.
D'accord. T'aurais préféré qu'on aborde les choses comment à ce moment-là avec toi?
Bah, qu'on me demande peut-être ce qui se passe, mais bon, si ma thématique phare aujourd'hui dans les conférences c'est la communication, c'est bien que j'ai grandi dans une famille où la communication était difficile, voire violente, hein, clairement. Donc, pour moi, c'était. Malheureusement, dans le contexte dans lequel j'étais élevée, c'était impossible d'en parler, quoi. Alors, okay. Après, comment j'aurais aimé l'aborder, comme je le fais avec mes enfants, essayer de comprendre. Et puis, aussi, j'aurais aimé qu'on m'accompagne, comme je.
Oui.
Moi, j'ai ma dernière qui est relativement timide. Et justement, je me revois aussi quand je la vois, je l'accompagne au maximum. Je la force pas, c'est déjà ne pas la forcer, mais surtout lui dire, viens, ben, de quoi t'as besoin, qu'est-ce qui te fait peur, de quoi voilà, je la questionne beaucoup et je vois les changements tout doucement. Donc,
Et puis, alors, je sais pas quel est ton avis sur ce sujet, mais moi je pars aussi du principe que dans l'absolu, c'est pas forcément un défaut d'être timide. Et déjà, de toute façon, je n'aime pas le terme de défaut. Mais les gens le classent souvent dans la catégorie défaut. Moi, je considère simplement que c'est une forme de personnalité, une facette d'une personnalité. Elle peut être problématique à certains moments parce qu'elle peut être bloquante à certains moments de la vie, parce qu'on a besoin par définition d'échanger avec les autres. Mais en soi, une personne qui est timide n'a pas besoin non plus de devenir complètement extravertie ou de devenir conférencière comme tu as pu l'être, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais...
Ah bah pour moi, ça m'a développé une qualité extrême qui est celle de l'observation et de l'écoute.
Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est une de mes vraies forces qui me sert aujourd'hui dans mes accompagnements et le décryptage du non-verbal aussi. Je suis décryptée grâce à tous ces moments où je me suis pas exprimée. Moi, j'en ai fait une force parce que moi, parfois, quand j'observais, ça m'arrive encore aujourd'hui, des personnes qui sont hyper extraverties, des fois j'ai envie de leur dire, mais tourne ta langue cette fois dans la bouche, dans ta bouche avant de parler, parce que bah, moi ça m'a permis peut-être d'être plus tempérée dans mes propos, et voilà, mais en tout cas j'ai développé ça, et c'est vrai que bon, bah, j'ai fait avec, mais le prendre comme un défaut, non, moi je dis vraiment à toutes les personnes qui sont introverties, timides, réservées, peu importe le mot qu'on dira, même si je sais qu'on les différencie d'un point de vue plus scientifique, c'est pas un défaut. Moi, pour moi, voilà, c'est une force au contraire, parce que, et d'ailleurs, j'ai lu un article qui m'a fait plaisir, qui démontre que les plus grands leaders sont souvent avant tout des timides.
Hein. Oui.
Donc, et moi j'ai toujours été dirigeante, même sur mon premier job d'étudiante. Quand j'étais en prépa, je faisais du téléphoning, tu sais, les gens qui appellent au téléphone et qu'embêtent. C'était facile d'ailleurs pour moi à l'époque parce que j'étais derrière un téléphone.
Ouais.
Et en fait, très rapidement, puisque j'étais hyper consciencieuse dans mon travail, on m'a mis manager d'équipe. Hein.
D'accord.
Donc à 18 ans, je dirigeais déjà une équipe.
De combien de personnes?
Elles étaient 5, après 6, 7, hein, ça a monté. Et pourtant, c'était un job d'étudiant et je manageais des personnes qui avaient plutôt entre 30 et 45 ans.
D'accord. Mais alors là, du coup, par exemple, tu faisais des réunions d'équipe
Ouais, je leur donnais leurs objectifs.
Et comment ça se passait?
Et bien, ça se passait bien parce que j'étais, comme j'étais beaucoup dans l'observation et dans la compréhension de leurs problématiques, hein, je m'appuyais sur ça pour pouvoir échanger avec elles.
D'accord.
Et c'est en ça que c'est une force pour moi de savoir observer, parce que tu es tellement à l'écoute des personnes, tu vois sans qu'elles s'expriment quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc au final, je dirais que ce qui m'a servi, c'est que comme je ne parle pas beaucoup, ça permet d'avoir du recul. Tu poses une question, comme fait un coach au final, et c'est l'autre qui parle. Mmh. Donc au final, je n'avais pas besoin de parler beaucoup pour permettre aux personnes, elles, de s'exprimer pendant ces temps-là.
D'accord, ok. Donc tu as vraiment réussi à en faire une force.
Ouais.
Ok. Tu nous parlais tout à l'heure de la boulangerie, hein, du fait que c'était compliqué d'aller acheter une baguette de pain. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres situations, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, qui ont été particulièrement marquantes par rapport à ça et qui voire même ont été un handicap, hein, qui t'ont vraiment posé souci?
Quand je suis arrivée à Reims, hein, je connaissais personne, hormis mon grand frère, mais bon, étudiant à l'époque, il avait autre chose à faire que de s'occuper de sa petite sœur. Et je me suis perdue mais à de nombreuses reprises. Je pense que je connais quasiment le nom de toutes les rues du centre-ville de Reims parce que je me promenais avec un plan que je ne savais pas lire à l'époque. Mais je préférais me perdre que de demander à quelqu'un mon chemin.
Que d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui dire est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin.
Impossible. Je préférais me coller devant le plan de la ville, accroché avec mon propre plan pour essayer de comprendre. À l'époque, je ne comprenais rien que demander. C'était pas possible. Donc, je suis arrivée en retard à des rendez-vous. Moi, je suis arrivée en retard à beaucoup de même des épreuves, etc. Parce que je me perdais, mais c'est pas grave.
D'accord.
Et d'ailleurs, tu vas rire, quand j'ai passé mon concours d'infirmière, je l'ai passé dans plusieurs villes. Et à l'époque, je ne connaissais pas bien du tout Chalon. Je n'ai pas pu passer mon concours à Chalon. Je suis rentrée chez moi parce que je n'ai pas trouvé le lieu et que je n'ai jamais osé demander à quelqu'un. Donc j'avais quand même payé parce que c'est un concours payant. J'étais inscrite, tout, et je suis rentrée. Et on m'a dit, alors, c'est passé comment? Je dis, je n'ai pas passé parce que je n'ai pas trouvé. Bah, tu n'as pas demandé? Non.
D'accord. Donc... Ouais, effectivement.
Voilà, alors que j'aurais demandé à quelqu'un, on m'aurait montré la route et voilà, c'était réglé. En plus, j'étais partie en avance, mais j'ai tellement tourné, jamais trouvé. Et de toute façon, j'ai abandonné parce que l'heure du début du concours est arrivée. Je me suis dit, bon,
c'était passé, donc c'était trop tard. Tout.
Et ça m'est arrivé une paire de fois des situations comme ça où j'ai peut-être coupé des chances dans ma vie parce que par peur de demander à l'autre.
D'accord.
Voilà, okay. Donc ça, c'est plus. Voilà, c'est limite perso et pro hein,
parce que,
final.
Oui,
après, au niveau perso, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, sur mon premier poste directrice, même sur mon deuxième, quand m'envoyait en réunion pour aller échanger avec des partenaires assez importants, etc. On me disait, vous les avez vus? Oui, je les ai vus, mais j'avais pas échangé avec les personnes parce que j'étais dans mon coin et j'étais encore incapable. Mmh, et il n'y a pas encore si longtemps que ça. C'est vraiment depuis que j'ai décidé de, entre guillemets, me mettre en danger en travaillant pour moi, que là, j'ai compris l'importance de me dire, bah, tu risques quoi? Tu risques rien, donc vas-y. Mmh.
C'est ça, justement, qu'est-ce qui... Tu m'amènes à te poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de travailler sur ce point-là, enfin, d'avancer, en tout cas, sur ce point-là, de finalement de sortir de ta zone de confort? Je ne sais pas si elle était très confortable, mais en tout cas, de travailler sur cette timidité-là. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Ou est-ce que ça s'est fait tout naturellement au cours de ton parcours professionnel?
Alors on va dire ça, c'est progressif, hein. Il n'y a pas eu un vrai déclic. Bon, en tout cas, le déclic très récent, c'est il y a un an et demi, donc c'est quand même super récent. C'est le fait de travailler pour moi. Comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'hyper motivé. Quand je me fixe un objectif, j'y vais à 100%.
D'accord.
Donc je me suis dit, ma grande, t'as plus le choix. Si maintenant tu décides de travailler pour toi, forcément ça sous-entend du démarchage commercial, ça veut dire du réseautage, aller rencontrer l'autre. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Donc à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'étais me former du moins auprès de personnes qui étaient commerciales. Je me suis renseignée en formation sur les neurosciences. On m'a beaucoup appris par rapport à ça, justement sur le fonctionnement du cerveau, sur comment ça se passe, parce que justement, une des personnes qui donne les cours, c'est un grand timide à la base, et quand je l'ai vu la première fois, quand il m'a dit ça, j'ai rigolé, et quand il m'a raconté des anecdotes de vie, je me suis reconnue, donc ça m'a rassurée, je me suis dit que finalement, c'est peut-être ça quand même le déclic, de me dire, c'est pas une fin en soi, finalement, je peux aller...
On peut en faire quelque chose.
Je peux en faire quelque chose. Et vu comme lui, il est aujourd'hui, et vu ce qu'il fait, comme l'entreprise qu'il a montée et qui fonctionne, et lui, il a trouvé des stratégies toutes simples, et il dit, c'est toujours pas naturel, mais j'y vais. Donc, j'ai écouté ses conseils. Et puis après, j'ai la chance aussi d'avoir des personnes dans mon réseau qui sont hyper à l'aise dans le réseautage, dans le contact avec l'autre, etc. Donc, je les ai beaucoup observées pour voir comment elles font. Et j'ai modélisé, tout simplement, avec évidemment ma façon de faire. Et je me suis dit, bon, il faut que tu y ailles. Mais par contre, je suis obligée, encore aujourd'hui, de me connecter au pourquoi je vais vers l'autre. Si dans ma tête, c'est pas clair, la raison pour laquelle je vais vers l'autre n'est pas claire, je ne sais pas pour quel objectif j'y vais, je ne pourrais pas y aller. C'est encore comme ça quand même.
D'accord, mais quel que soit l'objectif, même si ça peut être une rencontre, même dans un cadre personnel, et peut-être simplement de faire connaissance, de discuter, ça c'est un objectif, ça peut être un objectif du... Quand tu dis je dois me fixer un objectif pour aller au contact, faire connaissance, ça peut être un objectif.
Oui.
C'est pas forcément un objectif de démarchage.
Non, ça peut être aussi juste faire connaissance. Tiens, elle a l'air sympa. Alors déjà dans ma tête, je vais me poser 15 000 questions sur déjà ça va être quoi, ma première question. Comment je vais faire. Je suis hyper centrée sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ce qui m'aide beaucoup et qui m'a toujours aidée depuis des années, c'est la sophro et la relaxation, quoi. De me connecter à l'instant présent, d'être en conscience, ça m'aide. Mais aujourd'hui
la respiration.
La respiration énormément. Mais si je ne suis pas dans cette visualisation positive de ce que ça va apporter de positif, je me connecte toujours au positif de ce pourquoi je vais vers la personne.
D'accord.
Et à partir de là, je peux y aller. Si je ne fais pas ça, je reste dans mon coin.
D'accord. Est-ce que tu anticipes... ce que les sujets que tu vas aborder avec la personne ou
au départ,
potentielles
oui.
questions
en fait c'est toujours le début puis une fois que je sens que
c'est le premier pas
ouais c'est vraiment une fois que je sens qu'il y a pas de jugement que mais ça reste quand même voilà il me faut quand même un certain temps pour me sentir libérée par rapport à ça. Il y a des personnes j'ai besoin de les voir quand même plusieurs fois avant de réoser y aller. Alors c'est de plus en plus facile, donc moi ce qui me fait plaisir c'est que je me rends compte que plus j'avance, plus je vieillis et plus là dans mon entreprise j'avance, plus c'est simple pour moi et je commence à prendre du vrai plaisir à aller à la rencontre de l'autre, ce qui n'était pas le cas avant. Avant c'était vraiment douloureux, que maintenant j'y vais avec un grand plaisir, même si c'est peu aisé, ça me fait quand même plaisir parce que je me rends compte de toutes les satisfactions que j'y trouve derrière.
D'accord. Et malgré tout, tu dis c'est relativement récent et c'est aussi quand j'ai décidé de me mettre à mon compte où je me suis dit ma cocotte maintenant il va falloir y aller. Tu aurais pu avoir un discours autre qui aurait pu être de dire non de toute façon je me mets pas à mon compte parce que je veux pas travailler ce point-là. Enfin ça me fait peur, c'est insurmontable pour moi donc je le fais pas.
Ben, c'est pour ça que je disais que le sport m'a beaucoup aidée, parce que je suis une compétitrice. Donc la compétition, là j'avais un objectif, je suis connectée à mon objectif d'apporter du mieux-être aux autres. Et pour y arriver, fallait que je sorte de ma zone de confort, effectivement. Donc si du coup ça m'aurait déconnectée de mon pourquoi.
D'accord.
Okay. Et pour moi ça, du coup mon pourquoi il est tellement fort que j'y suis allée même si c'était douloureux. Et c'est vraiment ma formation de conférencière qui m'a permis aussi de prendre un nouveau souffle, parce que je suis allée faire cette formation, je me suis retrouvée avec des personnes, pas toutes, mais beaucoup qui étaient hyper à l'aise, celles qui donnaient déjà des conférences depuis longtemps, mais qui venaient vraiment apprendre une technique pour bien savoir présenter des conférences auprès d'un public d'entrepreneurs et pas que du grand public. Et là, moi, j'ai vécu un véritable syndrome de l'imposteur, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai même cru que j'allais arrêter la formation, quoi, parce que je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas à ma place, t'y arriveras jamais, voilà, ça... Et pour moi, chaque fois que je monte sur scène, même si j'y prends beaucoup de plaisir, j'ai toujours un moment où, même quand je le projette, faut que je travaille vraiment ma visualisation positive pour me dire, mais tout va bien, quoi.
Tu y arrives en te raccrochant au sens de pourquoi je suis là, quel est
tout
le sens.
Tout ce que je fais, moi, c'est toujours le sens qui, au niveau cerveau, clairement, c'est comme si, je développe toutes mes connexions synaptiques qui me font dire, t'es là pour ça et pour mettre, je vais pas dire je suis en mode robot, mais vraiment, je suis connectée qu'à ça, quoi.
Ouais. Et finalement, d'ailleurs, parce que ça interpelle quand même quand on voit ton parcours d'infirmière, de cadre, de directrice d'établissement, sophrologue, sont tous des métiers où inévitablement tu as du contact, où tu vas vers les gens. Donc finalement ça ne t'a jamais, là je prenais l'exemple de ton entreprise aujourd'hui, mais dans tout ton parcours, dans tous tes choix de métier, ça ne t'a jamais empêché d'avoir un métier orienté vers les autres?
Non, ça m'a jamais empêché parce que bah, je me suis toujours défendue avec mes compétences en fait. Au final,
Tes compétences techniques?
Mes compétences techniques, quelque part, je me suis toujours donnée à 110% dans tous mes apprentissages pour justement pallier à ça.
D'accord.
Voilà, j'ai comblé en fait avec d'autres choses pour réussir à avancer. Donc, okay. ça a été assez, assez difficile.
Des aventures. Okay. Tu nous parles de visualisation positive. Moi, c'est un exercice que j'apprécie particulièrement et que je réalise très souvent. C'est pas moi qui le fais, mais en séance de coaching, quand j'accompagne des personnes, on pratique aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais, toi, pour pratiquer cette visualisation positive?
Alors, en fonction, moi, déjà, tu te mets en état de relaxation. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais très facilement grâce à la sophrologie. Hein, parce que moi, en plus, j'ai eu la chance de découvrir la sophrologie il y a très longtemps avant même de me former. Hein, j'avais, je crois, 13 ans quand j'ai découvert la sophrologie. Donc, je me détends très rapidement. C'est une signal de détente, hein, moi qui ai ancré pour me détendre. Et ce qui m'aide beaucoup aussi dans ces situations, quand j'ai le stress qui monte ou j'ai un geste qui me fait redescendre le stress. Et ensuite, c'est vraiment voir la situation quelque part finie.
D'accord.
Et se connecter à tout ce qui s'est bien passé.
D'accord.
C'est vraiment avoir une vision positive de la rencontre avec la personne, de la discussion, même du sujet, et du résultat aussi après, de tout ce que ça va m'apporter. Et le fait de visualiser ça, quand on vit la situation réelle, moi quand je la vis, je suis vraiment connectée à tout ce positif, et c'est ce qui me permet de me dire... Waouh, tout ce qui va se passer par la suite.
Ce qui m'attend de bien.
Ce qui m'attend de bien. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir la pêche quand je vais vers quelqu'un, d'être souriante et détendue. Parce que ça me dégage presque de du stress hein, qui est avant de travailler cette visualisation. Parce que je suis connectée entièrement au positif.
D'accord. Donc tu visualises ce que ça va t'apporter de positif à l'issue de l'échange, par exemple, ou de la rencontre. Est-ce que tu visualises aussi comment va se passer la rencontre et l'échange?
Okay. Oui, aussi. Donc, et justement, moi, dans ma visualisation, je travaille beaucoup sur mes ressentis corporels, justement. D'accord. Avec une respiration calme, avec une communication fluide, avec des gestes aussi harmonieux, parce que c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise, moi en tout cas quand je suis pas à l'aise, voilà, je pourrais être un peu perdre mes mots ou avoir des gestes pas forcément coordonnés. Donc ça me permet aussi d'être centrée dans mon corps, donc je le vois bien avant aussi.
D'accord.
Voir comment dans ma posture corporelle je me sens.
Et comment ça se passe si les choses ne se passent pas exactement comme ce que tu avais visualisé?
Bah, globalement, j'avoue que jusqu'à maintenant, ça se passe bien.
Ça se passe bien.
Après, parfois, je me rends compte que effectivement si je suis pas assez bien connectée, je me rends compte que je suis un peu à côté.
Connectée à qui
au positif.
Hein, au positif.
Connectée au positif de la situation et à mon objectif. Si je suis pas assez connectée à l'objectif pour lequel je vais rencontrer quelqu'un, je peux perdre mes moyens. Donc ça m'arrive encore. Je vais perdre mes moyens, alors après c'est tout, je me re-questionne justement et je me rends bien compte que c'est parce que j'ai plus de sens en fait, j'ai plus pu donner de sens à cette rencontre.
D'accord.
Donc pour moi c'est hyper important, ce qui se passe bah, c'est tout, j'arrive à, sans grande satisfaction à aller jusqu'au bout de l'entretien, mais je pense que les personnes perçoivent quand même que je suis hyper mal à l'aise.
D'accord, et puis c'est pas forcément confortable.
C'est pas confortable pour moi, je sens bien que la personne en face n'est pas forcément confortable non plus. Et puis je suis pas claire aussi dans mon propos. Donc c'est ça le souci, c'est que dans ces cas-là, je peux manquer de clarté.
Okay. Si tu devais nous expliquer finalement comment tu as fait pour évoluer sur ce sujet-là, quel travail tu as mené pour en arriver là aujourd'hui, comment tu pourrais nous le résumer en tout cas?
Je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la sophrologie, ça c'est clair, parce que j'ai commencé très jeune. Le sport aussi, parce que ça m'a permis d'extérioriser ce qui était à l'intérieur. Et puis dans le sport aussi, on fait beaucoup de visualisation hein, pour atteindre ses objectifs.
Oui,
donc
oui,
pour
oui.
moi, tout est interconnecté. Et puis après, je me suis fait accompagner aussi, hein, clairement. Mm-hmm. Pas forcément que pour ça, mais ça m'a aidé. Donc moi, j'ai testé énormément de thérapies alternatives. Du type l'hypnose ericksonienne, c'est un outil que j'aime beaucoup. L'EFT aussi, que je pratique, à laquelle je suis formée. L'EFT, c'est un outil pour moi assez magique. Et puis la respiration et la pleine conscience. Quoi. La pleine conscience.
La pleine conscience. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler et beaucoup parler aujourd'hui.
Alors moi, ça fait plus de 15 ans que je pratique.
Pour des personnes qui ne sauraient pas trop ou qui ne sauraient pas comment pratiquer la pleine conscience, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ?
Alors moi, l'exercice que je donne souvent en exemple, c'est que je me dis, théoriquement, il concerne tout le monde, c'est le brossage de dents.
D'accord.
Te brosser les dents en pleine conscience, hein, donc en plus, avec un peu de chance, tu le fais au moins 2 fois par jour, mm-hmm. voire 3 fois, mm-hmm. c'est que quand tu te brosses les dents, c'est à partir du moment où tu attrapes ta brosse à dents, déjà, tu connectes à l'objet brosse à dents dans ta main. Oui. Et puis en général, tu parles pas pendant ce moment-là, donc tu es vraiment centré sur toi. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu peux le faire en mangeant, mais souvent tu manges à plusieurs, donc tu discutes. Alors que là, tu te connectes déjà à la brosse à dents, le ressenti dans ta main, qu'est-ce que tu ressens. Tu vas être aussi sur le gustatif, la saveur de ton dentifrice dans ta bouche. Donc tu es dans l'analyse de tout au niveau de tes 5 sens.
Ouais, de ton
c'est ressenti. Vraiment ressentir tout. Et puis prendre le temps vraiment de sentir les poils de ta brosse à dents sur chaque dent, sentir ta salive, comment ça se passe, ta respiration, comment elle est. Et en même temps, puisque tu es qu'avec toi, tu peux aussi écouter les bruits environnants. Tu peux écouter peut-être le bruit de la douche, ton conjoint qui coule, le bruit des oiseaux dehors quand c'est le printemps, tes enfants qui sont à côté. Moi, peu importe, tu te connectes à tes 5 sens.
D'accord.
Et c'est un instant, je trouve, qui est précieux parce que ça dure quand même 3 minutes. Et 3 minutes de pleine conscience par jour, c'est l'équivalent de 20 minutes de relaxation quand même.
D'accord, ok. Donc c'est ça que ça apporte, ça apporte une forme de relaxation, de sérénité.
De sérénité, de reconnexion à soi aussi, reprendre conscience de qui on est.
D'accord. Mais écoute, je pense que je vais me brosser les dents différemment ce soir.
Et moi, je le fais sous ma douche tous les matins. Ouais, okay. Sous la douche, la pleine conscience. Ensuite, le brossage de dents. Moi, voilà, il y a plein de moments. La douche aussi, ça peut être un moment bénéfique.
Oui, finalement,
on peut le faire tout le temps.
On peut choisir le moment qui nous convient.
Tout à fait. Mais c'est vrai que j'aime bien donner l'exemple d'un brosse à dents parce que c'est le moment où on ne peut pas parler. Parce que souvent, c'est ça qui bloque. C'est que des fois, on se fait interrompre, donc on se met à parler et hop, on sort de l'exercice. Alors que là, on ne peut pas.
Et tu sais, alors je sais pas non plus ce que tu penses sur ce sujet là mais tu vas nous dire je trouve qu'en plus dans la société dans laquelle on vit mais aussi c'est parce qu'on le veut bien on a tendance à toujours vouloir faire plein de choses en même temps et moi la première j'avoue le matin quand je suis dans la salle de bain et que je me brosse les dents
tu fais ta journée
bien souvent voilà qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui c'est quoi ça. Mes rendez-vous
ouais, ça,
ou alors terrible. J'ai le téléphone à côté avec les infos et du coup on fait souvent plusieurs choses en même temps et du coup, ça nous empêche finalement d'être en pleine conscience.
Ah bah complètement, complètement. Alors moi, c'est vrai que ça fait tellement d'années que je le pratique, même mes enfants savent que quand ils rentrent dans la salle de bain que j'y suis, ils me demandent déjà s'ils peuvent me parler parce que
Maman,
je suis...
tu nous entends ? Est-ce
voilà,
que tu
c'est
es
ça.
Là ?
Et d'ailleurs, des fois, ils me parlent, je ne réponds pas parce que je suis dans ce moment qui, pour moi, est
D'accord.
précieux pour commencer ma journée, pour être dans ma visualisation positive parce que forcément, comme je suis habituée, ça va très très vite pour moi à faire, pour être dans mon intention de la journée, être connecté à son intention de la journée, justement, pour favoriser mes relations aux autres, c'est hyper important aussi. Et puis, se reconnecter à son corps, quoi, aussi. Ça, parce qu'il y a le côté où on fait plein de choses, mais en même temps, c'est sortir des automatismes, la pleine conscience, c'est vraiment être là où on est, à l'instant présent, tout simplement, quoi. Il n'y a rien qui va s'écrouler. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je suis tellement dans cette dynamique. Alors, je dis qu'on sort du sujet, mais des fois, on me dit, mais t'as prévu quoi ? Et souvent, je suis incapable de répondre. Non pas parce que je ne sais pas, c'est juste que ce n'est pas le moment pour moi.
D'accord.
Ça peut être... je me rappelle, il y a quelques années, j'ai invité plein de monde pour un nouvel an chez moi. Tous les jours, on m'appelait, on me disait, et on mange quoi ? Et on fait quoi ? Je ne sais pas, on verra. Ne sais toujours pas. Je n'étais pas capable.
D'accord.
Alors que je savais qu'il y aurait du monde. Je savais que ce serait un super moment. Je l'avais bien visualisé, etc. Et quand ils sont arrivés, tout le monde est arrivé chez moi, je n'avais fait aucune course, rien. Et ils m'ont tous dit, on va faire quoi ? Et je leur ai dit, vous savez quoi ?
Vous n'avez rien ramené ?
Non. Et on a tous été au marché Boulingrin faire les courses et chacun a été... Du coup, je les ai amenés à être dans leur instant présent. On a été faire des courses et chacun s'est connecté avec son envie du moment et pas de celle il y avait 2 semaines qui, pour moi, n'avait aucun sens.
D'accord.
Et faire les courses et dire, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quoi ? Vraiment.
D'accord.
Et on a fait, je crois, le meilleur nouvel an qu'on n'avait pas fait depuis des années.
D'accord.
Parce que chacun était dans son instant présent. Et c'est ça que moi aussi, j'aime bien... réapprendre à chacun, montrer qu'être là maintenant, c'est plus important que d'être à demain ou à hier.
Ce qui est très intéressant dans ce que tu me dis, et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, c'est que souvent, quand ce sont des sujets que j'aborde avec les personnes que j'accompagne, elles me disent « oui, mais quand je suis... dans ce cas-là, j'ai l'impression d'être égoïste. Quand je me reconnecte à moi et à mes sens, et j'ai l'impression d'être égoïste. »
Alors là, bon, évidemment, je ne partage pas du tout. Je dis toujours, justement, à mes clients, je leur dis, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Donc, ce n'est pas être, être égoïste. Au contraire, si on prend bien soin de soi, on sera tellement plus sympa avec les autres, tellement plus connecté avec eux, qu'on leur rend, tu vois, on leur fait un cadeau aussi. Donc, pour moi, en aucun cas, il y a de l'égoïsme. Au contraire, pour moi, vraiment, c'est essentiel.
C'est finalement la meilleure façon d'être altruiste.
Tout à fait. Finalement. Pour moi, oui. Ok. Ouais. Parce qu'on est aussi dans une société d'interaction et que si moi le matin je me lève, que je suis pas bien, que je suis stressée, etc., qui va prendre? Mes clients, mes enfants, mon mari, ma boulangère, parce que maintenant j'arrive à lui parler. Donc voilà, c'est toutes les personnes avec qui on va être en contact. Et d'ailleurs, on le voit quand même beaucoup, l'agressivité dans le quotidien, le coup de klaxon, etc. Pour moi, c'est dès le matin. Moi, je sais que le matin, je pars de chez moi, j'ai le sourire et je suis de bonne humeur tous les jours. Je vois ce matin, je me suis encore... Je me suis arrêtée, je me déplace en vélo à 90% de mon temps. Voilà, un véhicule qui est sur une piste cyclable, c'est pas grave, je m'arrête et je lui explique avec un grand sourire. Et à chaque fois, j'arrive quand même à créer maintenant une connexion avec les gens, juste parce que je leur montre que le sourire, quoi, le fait qu'on soit souriant, ça crée le sourire aussi chez l'autre. Et le fait de prendre soin de soi, on développe ça aussi. Et l'interaction est meilleure.
Ok. Donc tu nous parlais donc sur le travail que tu as fait sur ce sujet-là, tu nous as parlé donc de la sophrologie, du sport, de l'hypnose, de l'EFT, de la pleine conscience. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà des belles sources d'inspiration.
Après, j'utilise d'autres beaucoup choses les huiles essentielles aussi.
Les huiles essentielles.
Et à l'époque, ce qui m'a beaucoup aidée par rapport justement à la timidité, et j'ai aidé quelqu'un aussi grâce à ça, ce sont les fleurs du bush australien, qui sont très peu connues. Qui sont plus, à mon sens, plus efficaces, du moins plus fortes que les fleurs de Bach au niveau vibratoire. Et il y a certaines formules qui existent justement pour la confiance en soi, parce qu'il y a quand même un problème de confiance en soi, d'estime de soi, un problème de timidité. Et ça m'a vraiment aidé aussi.
D'accord.
Voilà, il y a plusieurs complexes, elles sont naturelles, mais ils ont créé aussi des complexes pour les personnes qui connaissent moins les plantes, où sont des gouttes à prendre le matin, le soir éventuellement, et le midi pendant 21 jours. Avec un objectif clair et précis qu'on formule quand on prend les gouttes. Et ça permet d'avancer. Et ça m'a aidé aussi à débloquer.
Alors, comment tu fais pour utiliser ces
c'est en sublingual, tu mets sous ta
mais
langue.
Mais pour te les procurer, alors, il faut une prescription.
Ça se trouve en magasin bio, tantôt. Tu peux les acheter sur Internet. Alors, sur Reims, maintenant, à l'époque, on en trouvait facilement. Sur Reims, il n'y a que deux boutiques où tu peux les commander. Mais c'est aussi simple de les commander sur Internet. Et ça m'a beaucoup aidé à la période où, quand je suis repris mes études, où j'avais des présentations orales quasiment toutes les semaines. Et ça, pour moi, c'était hyper compliqué parce que c'était devant systématiquement minimum 3 personnes et idéalement devant toute la promotion. Donc même si on était plusieurs à prendre la parole, il fallait y aller, quoi. Donc à chaque fois, c'était pour moi une épreuve, mais un apprentissage en même temps aussi.
D'accord. Est-ce que dans tout ton processus d'apprentissage, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tout cas l'évolution que tu as fait par rapport à cette timidité-là, est-ce qu'il y a eu une personne clé ou vraiment significative pour toi?
Je te disais tout à l'heure, là, ce coach formateur qui m'a aidé, et ils ont été plusieurs comme ça
à t'accompagner.
Voilà, à m'accompagner, à me faire prendre conscience que c'était pas grave et qu'il y avait des moyens de s'en sortir, qu'on pouvait toujours pallier, que c'était pas une maladie. Et que voilà, et qu'on pouvait toujours, et d'ailleurs les deux à qui je pense sont tous les deux conférenciers, dont un qui est en train de faire qui a fait cet été une conférence, je crois, devant plus de 1000 personnes. Je pense qu'on lui aurait dit ça il y a 5 ans en arrière. Tu parles de quelqu'un d'autre, tu parles pas de moi. Donc je dirais que c'est ça. Et puis il y a aussi, j'ai toujours fait du développement personnel malgré tout, ça a été pour moi un vrai accompagnement avec à l'époque, quand je me suis installée en tant que sophrologue, relaxologue, une psychologue qui s'est installée en même temps que moi, avec qui j'avais fait connaissance, et qui animait des ateliers, des ateliers de travail sur soi, sur différentes thématiques. Et j'ai beaucoup participé à ces ateliers, ça m'a aussi beaucoup aidée. Ça m'a fait découvrir d'une part les outils, ça m'a permis aussi de m'exprimer au sein d'un groupe de manière... intime et en même temps face à des gens que je ne connaissais pas, ça a été aussi une expérience pour moi qui m'a fait grandir.
D'accord.
Vraiment.
Est-ce qu'il y a eu un livre en particulier qui t'a inspiré
Et bah, quand j'ai lu tes questions, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai rigolé parce que j'ai regardé rapidement ma bibliothèque.
Ta bibliothèque.
Même si, j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont chez ma maman, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je lisais beaucoup de livres où si j'avais souvent un héros qui était seul.
D'accord.
Donc je devais beaucoup me reconnaître et m'identifier. Et ensuite, après, j'ai beaucoup lu les livres sur la résilience de Boris Cyrulnik.
D'accord.
Qui m'ont accompagnée aussi à grandir. Ça, et puis bah, moi, un livre que je conseille vraiment, c'est L'art du calme intérieur d'Eckhart Tolle, justement pour se connecter à l'instant présent.
L'art du calme intérieur.
Ouais, l'art du calme intérieur, qui est vraiment un livre... qui, même quand on sait ce qu'est la pleine conscience, même quand on sait toute l'importance, tout l'impact, le fait de le relire et de le repercevoir comme ça, je crois que c'est une période où j'étais limite dans le silence quand je l'ai relu ce livre et quand je le relis, parce que je suis tout le temps dans l'observation encore plus, de manière plus forte, hein, et je trouve que ça fait du bien, ça permet de se reconnecter aussi même à la nature, etc. Ça fait du bien.
D'accord, ok. Si tu devais retenir finalement une leçon de vie de tout ce parcours, tu aurais envie de partager, ce serait quoi ?
Moi, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Ça, oui. C'est ma leçon de vie. Rien n'est joué. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme un jeu. Je suis une joueuse. J'ai envie de dire, voilà, on lance les dés et demain, le jeu peut être encore différent. C'est juste à nous de relancer les dés à chaque fois et de prendre sur soi et d'avancer. Et de se dire que même si, effectivement, notre nature première, elle est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, et je peux dire que, pas plus tard que la semaine dernière, ça m'a fait vraiment sourire, donc j'ai donné une conférence, et il y avait mes enfants qui sont venus, c'est la première fois qu'ils me voyaient sur scène.
D'accord.
Et j'ai ma deuxième fille, qui le soir m'a dit, oh, je savais pas que t'étais timide comme ça, maman. C'était sa première phrase. Parce qu'elle me voit en tant que maman dans un autre environnement, etc. Et là, elle a découvert sa mère face à un autre environnement où elle a vraiment perçu ma timidité sur scène. Alors que franchement, les gens qui ne me connaissent pas ne le savent pas forcément. Mmh. Mais elle, ça, elle était impressionnée. Elle me disait, mais je ne pensais pas que tu étais comme ça. Mais c'est impressionnant. Mais tu es super timide, maman, en vrai.
On ne te voit pas comme ça à la maison.
Voilà. Alors, elle qui n'y est pas du tout. Donc, elle, c'était... comme quoi on peut avoir aussi plusieurs facettes. Mmh. Le principal, c'est, je crois, d'être raccord avec soi à l'intérieur. Et que même si je savais que, en plus pour moi, c'était une grosse pression, vu que c'était sur scène, du moins une scène sur Reims, il y avait pas mal de personnes dans le public que je connaissais, donc ça m'a mis encore plus de pression. Je pense que ça a généré encore plus cette remontée de... cette peur d'être jugée, d'être évaluée, etc.
Donc ça t'arrive toujours, en fait, de...
Et bien sûr, ça m'arrive toujours, parce que je pense que c'est en moi... Je pense que ça arrivera encore, mais ça arrive de moins en moins et de moins en moins fort. Donc c'est pour ça que je me dis c'est bien, quoi. Je suis contente parce que je sens que je suis sur une vraie voie de progrès et je peux vraiment dire que c'est 2018 qui a été pour moi un vrai déclencheur.
D'accord. Et du coup, quel conseil tu voudrais donner ? Tiens, tu vois, par exemple, je vais revenir sur un exemple de la vie courante. Moi, j'ai quelqu'un qui me partageait une situation l'autre jour qui me disait qu'il y a cette problématique de confiance en soi et de timidité. Qui me disait, voilà, l'autre jour je faisais des courses dans un magasin de bricolage, pour pas le nommer, et tu sais, parfois à la sortie de ces magasins-là, il y a des petites camionnettes de gens qui vendent du saucisson ou du pâté croûte, ce genre de choses, et il s'est fait intercepter par le vendeur, qui a insisté pour lui faire goûter son pâté croûte, etc., qui, soit dit au passage, avait l'air très bon, mais il m'a dit, moi je savais de toute façon pertinemment que je ne voulais pas lui en acheter, pour tout un tas de raisons, et finalement peu importe, mais en tout cas je savais que je ne voulais pas, mais je n'ai jamais réussi à lui dire non, et je suis restée avec le vendeur pendant plusieurs minutes, je ne sais plus exactement combien de temps, mais peu importe, et c'était une véritable souffrance pour moi de l'écouter, de ne pas savoir comment m'en sortir, comment lui dire non, merci, il est délicieux, mais je ne veux pas vous acheter votre pâté croûte. Voilà, donc,
et là, c'est à lui dire.
Alors finalement, il a réussi, mais dans une souffrance absolument terrible. Hein. Je pense qu'il est rentré chez lui presque avec des sueurs froides et il a dû y repenser pendant quelques temps après. Et ça peut même aller jusqu'à l'angoisse de retourner dans le magasin. Et si le petit monsieur est encore là avec son camion, voilà, je vais me retrouver face à cette situation, etc. Un exemple vraiment typique de la vie courante, quel conseil tu aurais envie de donner, par exemple, pour ce genre de situation ?
Je crois vraiment, Et moi, c'est ce que je fais, parce que je rigole quand j'entends ça.
Bien sûr.
Je sais ce que c'est.
Tu te reconnais, tu...
Voilà, ça, je me vois encore ne pas repasser dans certains endroits de Reims pour ne pas croiser telle personne, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir lui dire que... Parce que je me suis déjà aussi restée bloquée pendant des fois longtemps avec des personnes à pas oser partir.
Sans dépatouiller.
Et voilà. Mmh. Et c'est vraiment de se connecter à... Qu'est-ce qui va m'arriver si je dis ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je vais mourir? Non. Est-ce que la personne va m'agresser? Non. Est-ce qu'elle va être violente? Non. C'est se connecter au fait que c'est pas écologique pour soi, c'est pas bon pour soi de subir cette situation et de se dire c'est pas grave. Et si la personne au final elle est vexée, elle en mourra pas non plus.
Non plus.
Et c'est pas pour autant qu'on est méchant, c'est pas pour autant qu'on est mauvais, c'est juste qu'on se respecte soi, c'est se connecter peut-être au respect qu'on a pour soi.
À ses propres valeurs et à ses besoins. Respecter soi-même.
Et à ses besoins. Mon besoin, il est de partir, j'ai autre chose à faire, c'est plus important, et là, je ne connecte pas. Ça, maintenant, j'arrive quand même plus facilement à le faire.
Alors là, du coup, en l'occurrence, pour finir cette petite histoire, c'est effectivement comme ça qu'on a travaillé avec cette personne-là, en trouvant la meilleure façon, en tout cas la plus écologique pour lui, de dire non, tout en respectant la personne en face et en se respectant soi-même, finalement. Parce que c'est tout à fait possible de dire non, mais simplement de dire, ben non, merci, votre produit est très bon, mais aujourd'hui, je n'en ai pas le besoin. Donc, c'est pas un rejet de la personne ou de son produit, c'est juste que ça ne correspond pas à un besoin pour soi aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Se reconnecter à l'instant présent.
C'est ça,
c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Ok. Donc, est-ce que tu auras une autre source d'inspiration à donner aux personnes qui nous écoutent? Tu nous parlais donc de l'art du calme intérieur.
Moi, j'ai une citation qui me plaît beaucoup.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est en salle de sciences, à l'école de mes enfants, elle est inscrite, et ils la connaissent par cœur, et ils y sont très connectés. Et j'aurais aimé la connaître, moi, à l'époque. C'est une citation de Confucius qui dit « Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n'en pose pas est sûr de le rester. » Et c'est se connecter à ça en se disant, mais au final, qu'est-ce que je risque à poser une question? Effectivement, si je ne pose pas de questions parce que je n'ose pas, parce que j'ai peur, bah, je vais pas m'enrichir de quoi que ce soit, de l'autre, parce que je serais restée avec mes questions et je n'aurais pas de réponse. Et au final, si j'en pose une, je ne peux que grandir et apprendre de l'autre et de moi-même en même temps. Donc, c'est une citation que je trouve très belle, et je trouve ça bien qu'elle soit affichée dans les écoles pour inciter justement les enfants à... Parce que souvent, c'est des petits qu'il faut... Je pense que c'est important de travailler ça, et de dire aux enfants, allez-y, posez des questions. Tout est parfait, quoi qu'il arrive, on est là pour vous accompagner. Bon, après, peut-être qu'il faut aussi, dans certaines écoles, peut-être encore accompagner les enseignants dans cette dynamique, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de progrès de fait. Et voilà, inciter les enfants à dire, et même dans les familles, quoi, accompagner les parents à comprendre que, et oui, des fois les enfants posent des questions qui peuvent paraître idiotes, mais il n'y a pas de questions idiotes. S'ils la posent, c'est qu'ils ont un besoin de réponse,
d'avoir une réponse,
et que c'est plus important qu'elles puissent sortir cette question.
D'accord. Bah écoute, c'est une belle fin, je trouve, sur cette citation. Est-ce que ça te convient?
Ça me convient parfaitement,
super.
Merci.
Merci beaucoup pour ce partage. Juste pour finir, c'est quoi la suite? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Une prochaine conférence, peut-être?
Alors, pour l'instant, j'ai pas de date fixe. Il y a des projets qui sont en cours pour 2019, et ils sont nombreux.
D'accord.
En termes de conférences, donc l'actualité...
Donc, à suivre. Informations à suivre
voilà.
Pour surveiller les dates,
voilà,
c'est ça.
À suivre. Les ateliers, pareil, j'ai pas de date, mais... Et c'est pour ça aussi que j'adore animer des ateliers sur valoriser sa communication pour son entreprise, savoir mieux communiquer et autres, parce que je suis tellement passée par là que pour moi c'est aussi, je dirais, une envie que j'ai envie de transmettre, de c'est possible aussi pour vous.
C'est un plaisir pour toi de transmettre ça.
Complètement. Donc des ateliers qui vont être organisés aussi sur ces thématiques-là courant 2019. Après, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Facebook.
D'accord.
Sur ma page Ma Référence Coaching.
D'accord.
qui est en train de changer de nom, donc mais il y aura des liens pour me retrouver de toute façon.
Moi, je mettrai les liens aussi dans les notes, les commentaires de l'épisode.
Comme je suis plus trop accrochée au mot coaching, j'ai voulu, je suis en train de le retirer, tout simplement. Et puis mon site internet qui est aussi maréférencecoaching.fr.
D'accord.
Où on peut retrouver aussi l'actualité, les informations, mes articles aussi.
D'accord. Et donc on pourra avoir les prochaines dates.
Tout à fait. Tout est toujours à jour, actualisé.
Avec tes contacts, j'imagine, si on a des auditeurs qui veulent te poser une question, par exemple, c'est possible.
Oui, tout
de
à
rentrer
fait.
En contact avec
Très facilement sur mon site, même sur mes pages pro, il y a
d'accord.
mes coordonnées téléphoniques, adresse mail. Je suis toujours ravie de répondre aux questions.
Super. Bah écoute, un grand merci pour ce partage et pour nous avoir livré autant d'informations précieuses. J'espère que ça va pouvoir inspirer des personnes qui sont dans cette situation-là. Et puis, j'espère à très bientôt.
Bah en tout cas, merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet très important, comme beaucoup. Mais voilà, celui-là, en tout cas, je suis contente d'avoir pu... parler.
Pour une fois.
Voilà.
Merci beaucoup, Aude.
Merci à toi, Catherine. À bientôt.
Rebonjour à tous. J'espère, une fois de plus, que cette interview a été enrichissante pour vous. En ce qui me concerne, j'ai particulièrement été impressionnée par la détermination de Aude et sa capacité à aller au bout de ce qu'elle entreprend. Habituellement, dans la deuxième partie de chaque épisode, je partage avec vous une clé, c'est-à-dire un apport un peu plus théorique. Et aujourd'hui, je trouve que les éléments qu'Aude nous a partagés sont déjà à eux seuls très enrichissants. Et ce que je vous propose, c'est d'en faire une synthèse pour vous aider à vous les approprier. Mais avant tout, je voudrais rappeler que la timidité n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un défaut au sens strict du terme. Si vous avez l'impression d'être une personne timide, ou en tout cas qui éprouve des difficultés à communiquer et à aller vers l'avant, à aller vers les gens, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous pouvez justement commencer par l'accepter et en faire plutôt une force, notamment par rapport à une capacité d'observation, une capacité de prise de recul, comme l'a évoqué Aude pendant l'interview. Une première technique intéressante si vous souhaitez améliorer votre capacité à rentrer en contact avec les gens de manière générale que vous ne connaissez pas est de vous connecter à votre objectif. Pourquoi je veux aller vers cette personne? Pour quelle raison j'ai envie d'entrer en contact avec elle? Ça peut être parce que vous avez envie de faire connaissance tout simplement, ou bien d'échanger sur un sujet en particulier, un sujet personnel ou professionnel. En tout cas, posez-vous la question « en quoi cela fait du sens sur moi ?» Et comme l'explique Aude dans l'interview, si vous restez connecté à cet objectif, il y a des chances que la démarche, le premier pas, soit plus facile à réaliser. Et si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi anticiper les sujets ou anticiper les questions à poser pour pouvoir amorcer justement ce premier pas et ce premier contact. La deuxième technique intéressante est de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Qu'est-ce qu'il peut m'arriver de grave? Quel est le risque si je vais parler à cette personne? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que je suis en danger? A priori, non. On a souvent tendance à surévaluer le risque encouru. Donc plutôt que de se laisser envahir par sa peur ou par un potentiel risque, vous avez plutôt intérêt à pratiquer la visualisation positive. C'est-à-dire voir, imaginer la situation terminée et se connecter à tous les éléments positifs de cette rencontre. Le déroulement, les échanges, ce que cette rencontre va vous apporter de bien, de positif, ce que vous allez apprendre. Et en pratiquant cette visualisation positive, cela peut vous permettre de vous mettre en énergie positive dans une forme de dynamisme qui va vous permettre de franchir le premier pas et aller vers cette rencontre. Ces sujets de communication et de relations humaines sont des thèmes qui seront de nouveau abordés dans le podcast. J'ai certains épisodes en prévision pour évoquer des techniques d'affirmation de soi, notamment par exemple apprendre à s'affirmer en toutes circonstances ou encore apprendre à dire non. Voilà pour ce quatrième épisode. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, vous trouverez l'ensemble de mes coordonnées sur le site www.cbcoach.fr. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.